Saluton!
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 Saluton! Saluton.
Salut en Alchiouï, bonjour à tous. Nous avons reçu des nouvelles rassurantes, tout au moins sur le plan individuel, de nos amis japonais Ori Yasuo et Arai Toshinobu. Ils rendent compte à leurs correspondants du monde entier de la terrible situation dans leur pays. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Cédric et Alice, qui sont rentrés en novembre 2010, après avoir parcouru 22 500 km en vélo couché. Ils sont d'ailleurs allés jusqu'au Japon.
Saluton Alice et Cédric.
Saluton.
J'ai la chance d'être à Châteauroux en présence d'Alice et Cédric qui rentrent d'un voyage autour du monde.
Oui, enfin pas tout à fait quand même.
Donc racontez-nous un petit peu.
Eh ben alors on est allé grosso modo de la France jusqu'au Japon.
Oui, mais de la France jusqu'au Japon, mais par quel moyen de locomotion?
Alors on est parti à vélo couché.
Et oui, c'est ça quand même qui est important.
Voilà, et puis donc on a traversé l'Europe, je ne vais pas dire tous les pays quand même, parce que ce serait peut-être long, mais grosso modo l'Europe, jusqu'en Turquie, Iran, puis après on n'a pas eu le droit de passer au Pakistan, parce qu'on n'a pas eu droit à des visas. Donc on est allé aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï notamment, où là on a encore, on ne sera jamais allé à Dubaï s'il n'y avait pas eu des espérantistes pour nous accueillir. Et on a cherché un bateau pour nous emmener en Inde, mais il n'y avait pas de bateau. Donc, on a pris pour la première fois de ma vie un avion jusqu'en Inde. Puis,
Après l'Inde, nous sommes allés au Népal et on n'a pas pu traverser le Tibet car c'était l'anniversaire des 50 ans de l'exil du Dalai Lama. Donc, les Chinois avaient fermé les frontières. Et comme on ne pouvait pas passer en Birmanie non plus, on a donc pris un autre avion pour la Thaïlande, car notre objectif au début, c'était de ne pas prendre l'avion.
Donc du coup, on est remonté en Thaïlande à vélo, et donc on allait en
Cambodge,
Laos, Vietnam, sud de la Chine, et puis Shanghai, où là on a rencontré encore des espérantistes qui nous ont aidés à avoir des billets de bateau et nous aider dans nos démarches pour aller au Japon. Donc on est allé au Japon en bateau, et là du coup on a regretté de ne pas avoir pris l'avion, parce que la mer du Japon est quand même très mauvaise. Et puis après, on est resté 3 mois donc sur l'archipel au Japon à rencontrer. Au début, on voulait pas rencontrer d'espérantistes parce que c'était tellement bien le Japon, tellement calme, on pouvait dormir n'importe où dehors et jamais personne venait nous embêter, nous dire quoi que ce soit. En plus, on pouvait dormir dans des parcs. C'était vraiment pour camper, c'était le grand luxe parce que on avait accès à l'eau, à des toilettes, camping sauvage mais de luxe quoi.
Finalement, en vélo. Quand êtes-vous parti?
On est parti le 19 avril 2008, et puis on est revenu le 20 novembre 2010.
Et combien de kilomètres avez-vous fait en vélo, essentiellement?
À vélo, pas tant que ça en fait, 22 500 kilomètres en tout, au compteur.
Pas tant que ça.
Non, parce qu'il y a eu un gros retour, parce que quand on est revenu après le Japon, on est revenu
en Chine.
Et c'était l'hiver, il faisait super froid, on n'avait pas envie de passer l'hiver en Chine parce que c'est beaucoup industriel et tout ça, donc on ne voyait pas l'intérêt de faire des démarches pour prolonger les visas, en plus ça coûtait très très cher. Donc du coup, on est rentré en Russie en passant par la Mongolie, mais en transmongolien, donc dans le train. Et puis donc c'était en plein hiver, on a passé Noël à la frontière mongole et russe, avec moins 40 degrés à peu près. Et puis après, on s'est dit qu'on allait en Ukraine pour remonter sur les vélos. Puis en fait, il y a eu une vague de froid début de l'année 2010 là, et même la mer Noire, avait fini par geler au nord. Donc, on a dû attendre un petit peu plus. Donc heureusement, à Kiev, on était encore chez des espérantistes. Et puis après, on a repris un bateau pour la Turquie, et là, on est remonté sur les vélos.
Alors justement, le milieu espérantiste vous a servi dans votre voyage. Quand avez-vous appris l'espéranto?
Alors on a commencé à apprendre l'espéranto au mois de novembre, je crois, ou septembre.
Octobre.
Octobre.
2007.
Octobre 2007 pour partir en avril 2008.
Voilà,
6 mois quoi.
Ouais. Mais tout est né d'Iligante. On n'a pas appris sérieusement au début parce que on préparait le voyage, donc il y avait tout les histoires de climat, de trucs politiques et tout ça. Enfin, puis on n'y connaissait rien quoi. Et puis en plus, il nous fallait des sous, donc moi je continue à travailler et tout ça.
Donc l'espéranto n'était pas votre,
votre première
nécessité.
Bah si, mais en fait on prenait pas beaucoup de temps pour l'apprendre quoi. On se contentait des 2 heures de cours par semaine avec Marivonne quoi.
D'accord, à Châteauroux.
À Châteauroux,
Marivonne.
Voilà. Puis alors après ça s'est un peu plus concrétisé quand on a commencé avec Marivonne toujours à envoyer des mails à des espérantistes en Iran, au Népal. Et là, quand on a eu des réponses, on se dit « Ah, bah, c'est que ça marche, dis donc !» Et puis, comme on arrivait à comprendre l'espéranto, donc là, c'était un nouveau langage pour nous, et puis on parle pas népalais, puis là, on avait des réponses de népalais. On se dit « C'est incroyable, quoi, d'avoir un gars au Népal. » Enfin, on s'imaginait le Népal, nous, quoi. Et puis, on avait des réponses, donc c'était assez incroyable. Donc, après, on est parti, et là, on a rencontré des espérantistes en France, mais on parlait surtout français.
Et puis après en Allemagne, on a rencontré trois ou quatre, et on mélangeait un peu les langues, en français, anglais, allemand, espéranto. Et puis après quand on est arrivé en Hongrie,
première famille.
Là, on n'y croyait plus dans l'espéranto parce qu'on arrivait dans la première famille qui était
complètement espérantiste en fait.
À la maison.
Donc c'est-à-dire à la maison, tout le monde parlait espéranto et même le chien ne comprenait que l'espéranto. Et donc ils parlaient, ils étaient super à l'aise et nous on était vraiment débutants, donc c'était assez difficile de bien comprendre. Alors par exemple l'enfant, comment il s'était, Laszlo. Il rentrait de l'école, il nous racontait sa journée, il débitait et tout en espéranto. Et nous, on demandait s'il pouvait parler moins vite. Ouais, et puis donc, il ralentissait pendant 1 minute, puis après, il revenait à un rythme naturel quoi, pour lui. Puis il maîtrisait toutes les règles de l'espéranto, donc vraiment, là, on était largués. La deuxième famille dans le sud de la Hongrie, pareil. Donc là, le couple parlait très très vite espéranto aussi et très très bien. Donc on s'est dit...
Oui, mais pas fort aussi.
Pas très fort, en fait. Nous, en fait, en tant que débutants, on aurait aimé...
Vous aviez besoin qu'on articule.
Oui. Qu'on articule, qu'on parle lentement et fort, quoi.
Oui, parce que j'apprends une langue, il faut que ça soit fort pour que ça pète partout, là.
Ouais. Et puis, du coup, on commence à se dire, disons, l'espéranto, c'est pas si facile que ça. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Et arrivé à la frontière de la Roumanie, je sais plus ce qui s'est passé. Enfin, on s'est dit, tiens, à Mako, on a regardé. À Mako, il y avait un espérantiste. Alors, on s'est dit, on va aller le voir, quoi, s'il veut bien. Après,
on fait un dernier essai.
On se dit, on fait un dernier essai pour l'espéranto, quoi. Et en fait, c'était une journée un peu exceptionnelle où il y a eu un énorme orage, la foudre qui était tombée juste à côté de nous. On s'est trompé de route, on est arrivé à la frontière roumaine. L'orage qui était toujours terrible, Alice qui crève en roulant sur une branche d'acacia, sous l'orage. Enfin, c'était vraiment la cata.
Bref, on avait 2 ou 3 heures de retard.
Il commençait à faire nuit. Et puis, il faisait nuit, ouais, et l'espérantiste nous avait indiqué, pour arriver chez lui, il fallait passer sur un pont pour entrer dans la ville, et puis on pouvait pas passer de toute façon ailleurs. Donc on s'est dit, c'est foutu, là, il va plus nous attendre, on va l'appeler pour s'excuser, puis on va essayer de trouver un coin pour camper. Et arrivé sur le pont, en fait, lui, ça faisait 3 heures qu'il attendait, dans sa voiture, sous l'orage, mort d'inquiétude, quoi, parce qu'on n'était pas arrivé. Et alors là, miracle, il parlait, on comprenait tout. Il parlait pas très vite. Il n'avait pas l'habitude de parler espéranto à la maison. Il y avait sa fille aussi qui parlait espéranto. Et alors, chez lui, puis c'était vraiment en toute simplicité, on rigolait, on s'amusait à se traduire des blagues ou des jeux de mots en français ou en hongrois en espéranto. Donc à chaque fois, ça voulait rien dire et c'était ça qui était marrant. C'est-à-dire que des jeux de mots en français qui nous font beaucoup rire, si on les traduit en espéranto, on va devoir utiliser d'autres mots qui ne sont pas du tout drôles, en fait. Il n'y a aucun jeu de mots. Donc lui faisait pareil en hongrois et donc on était à chaque fois morts de rire, quoi. Плювочем фрабасмона тоне, лонга атент, лідум плюву старесу блатегмент. Кія турмент, так ноктер плюв кайбент. Тіен вор, плювон віберцет десен лангор, шайна слакор.
pauvres bâtissaient la pluva se devasmi pache sur asfalto con emozii en la nesti qui estas vi
orai cantoi chante pluvo cae vent, pluie et vent, ce qui rappellera quelques galères à Cédric et Alice que nous retrouverons à la prochaine émission. Pour l'heure, Dorothée, Pierre et Roland nous attendent bien au chaud pour le cours d'espéranto.
Nous commençons aujourd'hui la 19e leçon du Yunul Curso. Alors je vais vous proposer deux préfixes pour commencer. Ek, ça s'écrit E-K, et ce préfixe indique le début d'une action ou sa soudaineté. Par exemple, mi ek parolas, je commence à parler. D'accord. Mi ek manjas, je commence à manger. Ou bien je vais dire à quelqu'un ek manju, commencer à manger. Ou bien la soudaineté de l'action, par exemple ek halti signifie s'arrêter, halti, mais brutalement. Voilà ce que la nuance introduite par le préfixe ek.
Et puis
un autre préfixe, dis. Comme en français dans le mot distribuer. Dis indique la dispersion. Alors ça s'écrit bien entendu D-I-S. Par exemple, doni, donner. Dis doni, distribuer. Par exemple, des cartes, etc. Et puis, un suffixe. Le suffixe passe-partout. Um. U-M. Ce suffixe, comme son nom l'indique, va nous servir de joker. Lorsque aucun des suffixes que nous connaissons déjà ne pourra
convenir,
dankon, ne pourra convenir. Par exemple, colo, c'est le cou, columo, c'est le col. Quel rapport y a-t-il entre le cou d'une personne et le col de sa chemise? Bien entendu qu'il y a un rapport, mais lequel? Il n'y a pas de suffixe qui indique avec précision ce rapport. Eh bien, on va employer le suffixe um avec la terminaison du substantif o, umo, colo, le cou, columo, le col. Pour un verbe, voici un exemple pour un verbe, malvarma, ça signifie
froid.
Eh bien, s'enrhumer se dira malvarmumi.
Prendre le froid.
Voilà, quel rapport y a-t-il entre le froid et s'enrhumer? Il y en a un, bien évidemment, mais pas, qu'on ne peut pas décrire par les suffixes que nous connaissons déjà. Un dernier exemple, plena, plein, plenumi, accomplir. Voilà pourquoi on appelle ce suffixe um, le suffixe passe-partout. Qui ou commensas? Dorothée?
Traino. Au vagonaro consistas el la locomotivo kai vagonoi.
Yes, traino,
le train.
Le train. Alors le train peut se dire aussi vagonaro.
Vagonaro, c'est un assemblage de wagons.
Exactement. Ah. Aro, c'est un ensemble, un assemblage. Ah. Donc vagonaro, c'est synonyme de traino. Ah. Traino, ça s'écrit T-R-A-J-N-O. Le J, je le rappelle, c'est un I bref, donc la première syllabe, trai, et la deuxième, no. Traino. Donc, traino consistas el...
Locomotivo cae vagonoi.
Yes.
Cae vagonoi.
Bon volu traduci, consistas el...
Consiste de...
Consiste en... Ou bien est composé de... Elle indique l'origine. Donc, un train est composé de... De quoi?
Une locomotive,
kai vagonoi.
Les wagonnets.
Et des wagons.
Wagon.
Voilà, wagonnet, ça
c'est
wagonetto.
Exactement,
ouais.
Avec le suffixe diminutif.
Ouais.
Très bonne.
La traino.
Roland?
La traino eliras el la tunnelo kai eniras... En la stazidomon.
En la stazidomon, bone. La traino eliras.
Mais oui.
Dorothée, la traino eliras.
Le train sort
yes.
Du el tunnel.
En la tunnelo.
Tunnel.
Kai eniras.
Iran.
rentre dans la gare.
En la stazi domon, dans la gare. Très bien. Domo, c'est une maison. Stazio, c'est une station. Donc, c'est la maison, le bâtiment jouant le rôle de station. C'est donc la gare, bien entendu. Stazi domo. Et ici, nous avons l'accusatif. Pourquoi cet accusatif ? Eniras en la stazi domon.
Il y a mouvement.
Il y a mouvement, c'est l'accusatif de destination.
Alors, on peut dire soit eniras la stazi domon ou iras en la stazi domon.
Exactement. Le verbe eniri, on peut le considérer c'est comme un verbe transitif, comme par exemple le verbe pénétrer. Mm-hmm. Voilà.
La charge automobile attendas ce la barilo.
Charge automobile, synonyme camiono.
Ah bon.
Et oui, pour nous, c'est, en français, c'est plus facile, camiono.
Alors, c'est Roland. La voiture de charge.
Oui, donc le camion.
Le camion.
Attend.
Ce, à proximité de.
Oui.
Devant. Devant la barrière, non ?
Devant la barrière, oui, ou à la barrière. Che indique une proximité petit peu vague.
Là, si,
voilà.
Si.
Donc, nos amis auditeurs n'ont pas l'image sous les yeux,
non.
Mais vous l'avez. Donc, vous voyez un camion. Chargi, c'est le verbe charger. Charge automobile, c'est donc. Un véhicule pour transporter des chargements. Bien entendu, le mot camiono est plus clair pour nous, français. Donc, la charge automobile attendas ce la barilo. Le camion attend à la barrière.
Oni vidas bauton apud lumturo kai velshipon en la haveno.
Yes. Alors, c'est boaton.
Oui.
Pensez à l'anglais boat.
On est vinas boat.
Voilà.
Apud lumturo.
Lumturo, c'est là où il y a la lumière pour. Comment ça s'appelle encore? La lumière
un
à la
phare.
Mer.
Une
un phare.
Phare. Voilà. Très bien.
Un phare.
Donc, nous sommes.
La tour à lumière, c'est ça?
Oui.
Lumturo.
Alors, nous sommes dans un port. Oni vidas boaton, Dorothée.
On voit des bateaux, non, un bateau,
une
bateau.
Une barque. Oui.
Ah.
Boaton.
Près.
Apud lumturo.
Près du phare.
Près du phare. Kai velshipon.
La haveno.
Ben, c'est un bateau, mais quoi?
Kiu havas velon.
Vélon.
Des voiles.
Voilà, un bateau à voile.
Donc,
c'est un mot composé. Vel shipo, estas shipo, kiu havas, ou en havas, velon. Une voile ou plusieurs voiles, bien entendu.
Kiu hen
en havas. Qui contient, qui renferme.
Et kiu havas, c'est pas assez.
On peut. Aussi.
Et en havas, qu'est-ce que ça rajoute?
Qui, en lui-même, qui contient.
Oui.
Contenir.
Oui, on comprend.
Kiu en havas velon. Donc, terminons la phrase. Oni vidas boaton apud lumturo kai velshipon en la haveno.
Dans le port.
Dans le port, très bien. Pierre?
Oni vidas ancau flagon sur alta construajo proxima alla hotelo.
Bon. Roland, pour traduire.
On voit aussi.
Oni vidas ancau flagon.
Un drapeau. Sur une grande construction.
Sur alta construajo. Proxima alla hotelo.
Près de l'hôtel.
Voilà, très bien, près de l'hôtel. Mm-hmm. Construajo, c'est ajo, c'est-à-dire une chose construite, donc un bâtiment, une construction. Dorothée.
En la valo, bella cervo staras ce la bordo de la riviera.
Bone. En la valo.
Dans la vallée.
Bella cervo.
Un beau cerf.
Oui.
Un cerf, C-E-R-F.
Très bien, l'animal. Staras, oui. C'est la bordo de la rivero.
Se tient debout, staras. C'est la bordo, sur le bord de la rivero, de la rivière.
Au bord de la rivière. Très bonne.
Johannino subite ecvidis multain floroin.
Bonne. Johannino.
Jeanne.
Subite ecvidis.
Aperçoit subitement beaucoup de fleurs.
Multain floroin. Très bien pour apercevoir.
Oui, c'est bien ça, apercevoir.
Vidi, voir. Ec vidi, commencer à voir. Donc, bien entendu, le mot français apercevoir convient très bien.
Chitui surgenuigis caeca mansis desir desciri illin por fari belan bucedon.
Bone. Chitui surgenuigis. Ça vient de
genuo.
Voilà. Surgenuigis veut dire igis,
elle
se mettre à genoux.
Sur siai genuoi, sur ses genoux.
Ouais.
Donc un mot construit à partir de la racine genuo, du verbe devenir igi qui est en suffixe et du préfixe sur, elle s'agenouille, elle donc s'installe sur ses genoux. Chitui surgenuigis. Elle s'est tout de suite agenouillée. Kai commensis deshiri ilin.
Et a commencé à cueillir.
Oui, très bien.
Deshiri ilin. De les cueillir. Oui, l'écueillir.
De les cueillir.
De les cueillir.
Por fari belan bouquedon.
Pour faire un beau bouquet.
Oui. Très bien. Alors,
déchiri.
Déchiri. Oui. Chiri,
tout plaque.
C'est déjà déchiré. Et avec le préfixe dé, on cueille en fait. On prend une fleur, donc on coupe la tige et puis on la cueille. Je vais vérifier quand même.
Oui, je l'ai vu quelque part.
Oui, chiri. Ouais.
Déchiri, c'est.
Ouais. Mais on les déchire en fait.
Ben oui, déchirer, mais c'est pas joli.
Voilà.
Mais non,
c'est... Cueillir en deux
donc,
mots, c'est mieux.
Chiri, oui. C'est bien déchirer. Et
oui.
Avec le préfixe dé, cela devient cueillir.
Mais c'est vrai que cueillir, c'est bien plus joli.
Ah oui, c'est un joli mot, cueillir. Je suis d'accord.
Déchirer, c'est vilain.
Ouais.
Bon, ilin por fari, belan bouquedon, ça c'est bien.
Voilà, bouquedon. Donc, un bouquet.
Un bouquet. Mm-hmm.
Les donc, cantoi estas simplae floroi, sed tamen beletae.
Les cantoi, le dessin va vous éclairer. Ce
les
sont
cantoi,
des
marguerites. Des marguerites.
Oui, des marguerites.
Oh, mais pourquoi les cantoi?
Ouais. Parce que ça a des... Tu sais, un cant, c'est un rebord. Cant... Quand c'est un mot pour dentelle, en fait, d'autres langues.
D'accord.
Alors, comme la marguerite
a des pétales,
a beaucoup de cantes, alors ça fait les cantos.
Bonnet.
Les marguerites sont des fleurs simples, mais cependant belles.
Belles ou jolies.
Les cantos estas simplae floroi. Sed tamen beletai.
Bonne.
Bon, mais cependant, joli, mettons. Oui, oui beletai, c'est petitement belle.
Voilà.
Joli. Bella, c'est
beau.
Et beleta, c'est joli.
Voilà. Mettons. On a, bien entendu, nos mots français ne
correspondent pas exactement.
Pas exactement à. Y a-t-il une hiérarchie entre beau et joli? Bon. Nous laissons nos auditeurs trancher.
Voilà.
Birdetto staranta sur proxima arbeto e cantas.
Bonne. Birdetto.
Des petits oiseaux.
Un petit oiseau. Staranta sur proxima arbeto.
Et debout près d'un arbre tout proche, mais les cantas, je sais pas.
Sur, donc sur, sur. Un arbuste proche, arbeto. Donc on a deux diminutifs ici. Birdetto, un petit oiseau. Arbeto, un petit arbre, un arbuste.
Oui.
Et ec cantas.
Se met à chanter.
Très bien. Ec marque le début de l'action. L'action c'est cantas, chante. Et ec cantas se met à chanter. Donc en lisant cette phrase, Birdetto staranta sur proxima arbeto, ec cantas. Et il faut qu'on entende le K de ec suivi du K de cantas.
Ec cantas.
Bon.
D'accord.
Por agvumi sia in floroin, Johannino el pompas agvon.
Bon. Por agvumi. Roland.
On dirait pour mettre, enfin pour
c'est pour abreuver, moi
oui.
Je dirais.
Oui, c'est bien ça, pour arroser.
Agvo,
c'est de l'eau, et agvumi, en utilisant donc ce suffixe passe-partout dont on a parlé tout à l'heure, c'est établir le rapport entre l'eau et l'action d'arroser. Donc, por agvumi signifie pour arroser. Siain floroin.
Donc, pour arroser ses fleurs.
Johannino el pumpas aquon.
Jeanne prend de l'eau, en fin de compte, pompe de l'eau. Quoi.
Pompe de l'eau, oui, tout simplement. Le préfixe el veut dire que l'origine de l'eau, qu'elle prend l'eau à son origine, tout simplement. Donc tire de l'eau, ça va très bien aussi, bien entendu.
Ah oui. La citelo plenigis, kai la aquo disfluas. Sur la terre.
Alors, tu vois, c'est pas la citelle.
La citello.
Le seau se remplit.
Plenigis, donc se remplit. Kai la aquo disfluas sur la terre. Donc, citello, c'est un seau. Ça n'est pas une citelle, ça n'est pas l'oiseau. Désolé, Pierre. La citello, c'est un seau. Plenigis est devenu plein. Donc, c'est rempli. D'accord, Dorothée. Kai la aquo vis fluas, fluis c'est coulé, dis c'est le préfixe qui indique la dispersion de l'eau, voilà, se répand sur le sol, sur la terre. Bonne.
C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt donc, gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.